Thomas Edison a été l'un des plus grands scientifiques au monde. Il y a plus de 120 ans, il a inventé l'ampoule électrique dont on ne peut plus se passer depuis. Devenu indispensable, on utilise aujourd'hui des millions d'ampoules, telles que celle-ci, pour éclairer des villes immenses. On assimile d'ailleurs la lumière à la civilisation. L'électricité n'est néanmoins pas l'unique source de lumière. Regardez cette petite lueur qui brille dans le noir. Malgré son intensité, il ne s'agit ni d'une ampoule électrique, ni même d'un quelconque appareil, mais bien d'une luciole. Ce tout petit insecte n'a pas besoin d'ampoule, ni d'électricité, pour produire de la lumière dans son corps. La luciole est de loin plus performante que les ampoules, dans la mesure où ces dernières n'utilisent que 10% de l'énergie acheminée à l'ampoule pour briller. Les 90 autres pourcents étant transformés en chaleur, et donc perdus. En revanche, la luciole produit à 100% l'énergie nécessaire à sa luminescence. En cela, sa conception est parfaite. Le corps de la luciole contient une substance chimique, la luciférine, ainsi qu'une enzyme, la luciférase. La combinaison de ces deux composantes dégage ainsi de l'énergie sous forme de lumière. Ces molécules complexes ont été créées spécialement à cette fin et chaque atome a sa place assignée au sein de ce plan. Il ne fait aucun doute que cet ensemble biochimique n'est pas le résultat d'une coïncidence, mais bien le résultat d'une création. Comme Dieu a donné à tous les êtres vivants leurs propres qualités, il a également conçu la luciole avec sa propre énergie lumineuse. Que fait alors la luciole de la lumière qu'elle émet grâce à sa technologie éternellement de pointe? Afin de le savoir, nous devons étudier en détail une nuée de lucioles. Ces images ne donnent-elles pas l'impression de marcher sous la lumière des étoiles? Or, ce ne sont pas des étoiles, mais bien des centaines de milliers de lucioles. Ces lumières sont essentielles à la communication entre lucioles. L'homme a employé divers moyens de communication. Le morse, par exemple, consiste en un mélange de signaux courts et longs. Les lucioles communiquent entre elles avec des signaux lumineux de la même manière que le morse. La luciole mâle allume et éteint sa lumière pour envoyer un message à la femelle. Le message mâle contient un code particulier que la femelle réutilise pour répondre au mâle. Au terme de ces échanges de messages, les mâles et les femelles s'accouplent. Dès sa naissance, la luciole sait comment envoyer les messages et comment décoder ceux des autres lucioles. Tout ceci contribue à faire des milliers de lucioles que nous voyons la nuit de pure merveille. Dieu, créateur de tous les êtres vivants, en est l'auteur. Certaines nuits, dans le golfe des Bermudes, on peut assister à un véritable spectacle de lumière. Peu après le coucher du soleil, de petites lumières fascinantes apparaissent à la surface de l'eau. Ce sont les anguilles femelles qui remontent à la surface. Elles produisent deux liquides chimiques qui, une fois mélangés, donnent de la lumière. Miraculeusement, ces êtres savent comment utiliser ces substances et en tirer de la lumière. Le résultat n'en est que plus parfait. Ce spectacle de lumière permet aux femelles d'attirer l'attention des mâles. On voit les anguilles mâles s'approcher. Dix minutes plus tard, la surface de l'eau est couverte de centaines de femelles qui brillent de mille feux. Si la lune vient à percer les nuages et illuminer la surface, les anguilles replongent au fond de l'océan. 20 minutes plus tard, le spectacle est terminé. Il faut aller à l'endroit le plus sombre de la Terre, c'est-à-dire les profondeurs de l'océan, pour pouvoir pleinement admirer les insectes faire de la lumière leur moyen de communication. Ce sous-marin a été spécialement conçu pour plonger à 600 mètres de profondeur. Les rayons du soleil ne pénètrent pas au-delà des 200 mètres. Voici le point le plus sombre sur Terre. La pression y est 20 fois plus forte que sur Terre. Vous vous demandez peut-être ce qui pourrait vivre dans de telles conditions. Pourtant, voyez ces petits signaux lumineux à l'extérieur du sous-marin. Quelle fascination! N'est-il pas logique de communiquer dans le noir au moyen de la lumière? À travers ces créatures, nous sommes les témoins du produit de l'art magnifique de Dieu. Ces incroyables créatures qui émettent cette lumière rouge font partie d'une espèce de méduse. Dans des eaux moins profondes, le jeu de lumière de cette autre espèce s'apparente à une galerie d'art. Il faut éteindre les lumières du sous-marin pour jouir pleinement du spectacle. Voici un animal merveilleux, paré de sa lumière. « Et là, une créature des mers qui nage tout illuminée. Personne ne connaît le sens de ces lumières. Les spécimens étudiés font partie de la famille des méduses. Aucune d'elles n'est douée de raison ou d'intelligence. Elles ne savent même pas comment elles créent la lumière dans leur corps. Il est complètement insensé de croire que ces êtres complexes et délicats à la fois ont pu voir le jour par hasard. Il ne fait non plus aucun doute qu'ils ont été créés dans un but déterminé. Ces lueurs émises dans les profondeurs ténébreuses de l'océan nous rappellent le pouvoir infini de Dieu. Il crée de manière unique. Tout ce qui se trouve sur Terre et dans les océans lui appartient. Il possède l'infinie sagesse et le savoir. Un verset dit : C'est lui, Dieu, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Tout le monde connaît l'araignée pour l'avoir souvent vue. Que ce soit à la maison, à la campagne ou dans le jardin. Cette petite bête attire l'attention de bien peu de personnes, bien qu'elle soit l'une des manifestations parfaites de la création de Dieu. Il faut, pour s'en rendre compte, l'étudier de plus près. La première chose qui vient à l'esprit quand on pense aux araignées, ce sont leurs toiles. Leur fabrication est une vraie merveille. Chaque toile d'araignée repose sur un plan relevant de l'ingénierie. Si on grossissait l'araignée à l'échelle humaine, sa toile mesurerait 150 mètres de haut, soit la taille d'un immeuble de 50 étages. Si l'araignée était suffisamment grande pour tisser une toile de 50 mètres de large, celle-ci serait assez résistante pour arrêter un jumbo jet en vol. Comment les araignées peuvent-elles tisser de telles toiles? Pour ce faire, l'araignée a besoin, tout comme l'architecte, d'un plan. Sans plan, il est tout bonnement impossible d'aboutir à une structure architecturale aussi résistante d'une telle taille. Après avoir préparé son plan, l'araignée a besoin de calculer comment le poids sera réparti sur les différentes parties de la toile, tout comme l'ingénieur en bâtiment ou en génie civil. Si elle ne le faisait pas, la toile s'effondrerait. Le tissage de la toile est un chef-d'œuvre miraculeux. Jugez vous-même. L'araignée projette dans l'air la soie qu'elle a filée et les courants d'air portent la soie à un point déterminé où elle se fixera. Commence alors le travail de construction qui lui prendra environ une heure. Vous voyez maintenant le procédé accéléré 60 fois. L'araignée tend d'abord des fils épais, étendus du centre vers l'extérieur. Elle construit ainsi le squelette de la toile. Elle tend ensuite un fil lâche et collant qu'elle utilise pour compléter les liens de l'extérieur vers l'intérieur. Et voilà, le piège est prêt. Le fil de l'araignée est en soi un miracle, au même titre que la toile entière. La soie de l'araignée est 5 fois plus résistante qu'un fil d'acier de la même épaisseur. Sa force de tension est de 150 000 kg par mètre carré. Si une corde de 30 cm de diamètre était fabriquée à base de soie d'araignée, elle pourrait supporter le poids de 150 voitures. Les scientifiques se sont inspirés de la soie pour produire le Kevlar, la matière utilisée dans les gilets pare-balles. Une balle volant à plus de 150 mètres par seconde peut perforer tout ce qu'elle croise, sauf le Kevlar. La soie d'araignée est plus fine qu'un cheveu humain, plus légère que le coton et 10 fois plus robuste que le Kevlar. Elle est reconnue comme étant la matière la plus résistante au monde. L'homme a besoin de fer et de fourneaux chauffés à plusieurs milliers de degrés pour produire l'acier de l'industrie lourde. La qualité de résistance explique pourquoi on l'utilise dans la construction de structures lourdes pour les bâtiments et les ponts. Par ailleurs, l'araignée produit un matériau 5 fois plus robuste que l'acier, sans toutefois recourir aux fourneaux ni à la technologie. Ce petit insecte n'est pas doué de capacités intellectuelles. C'est un grand miracle qu'une si petite créature puisse produire un fil plus résistant que l'acier et ériger des structures avec ce fil de la même manière que les architectes et les ingénieurs. Les araignées construisent des toiles pour capturer leur proie. Toutes n'attendent pas patiemment que la proie se laisse prendre. La famille des Dinopis préfère les pièges mouvants. L'araignée Dinopis produit des fils spéciaux en faisant 200 touches par minute. Elle les assemble les uns avec les autres selon un plan intelligent. Et le piège mortel est enfin prêt. Elle tend alors une embuscade dans un lieu de passage fréquent d'insectes. Ses excellents yeux détectent le moindre mouvement. Elle enveloppe aussitôt sa proie dans une soie spéciale. L'araignée piège plus d'une proie par nuit, et pour chacune d'elles, elle prépare une toile à part. De par la structure et la matière de la toile, la proie n'a aucune chance de pouvoir s'échapper. La méthode de chasse de l'araignée bolas est un autre miracle de la création. Son procédé est infaillible pour attirer sa proie, la mite mâle. Elle produit un fil résistant gainé de substances collantes. Elle le suspend à un arbre comme s'il s'agissait d'un hameçon. Et comme le pêcheur, elle attend patiemment que l'hameçon morde. L'araignée aussi a sa petite astuce pour attirer ses proies. Les mites femelles émettent une phéromone pour attirer les mites mâles. Les araignées reproduisent cette même odeur et en imbibent les extrémités de leur piège. La mite mâle ne peut résister. Dès qu'elle s'approche, l'araignée lance son fil tel un lasso. La proie est prisonnière. Vous pouvez voir sur l'écran la formule chimique de la phéromone émise par les mites femelles. La formule chimique de la substance est unique et spécifique aux mites femelles. La reproduction de son équivalent artificiel nécessiterait plusieurs manipulations dans un laboratoire chimique avancé. À supposer que l'araignée utilise sa propre intelligence pour reproduire l'hormone, cela serait tout aussi ardu pour elle que pour l'homme. Elle devrait d'abord trouver une mite femelle et apprendre comment elle attire les mites mâles. Elle devrait alors extraire un échantillon de cette phéromone de la femelle, l'étudier, et effectuer des tests en laboratoire pour trouver la formule correspondante. Elle devrait enfin badigeonner le bout de son lasso de cette substance. Or, la petite araignée ne dispose ni de l'intelligence, ni de la formation, ni de laboratoire de chimie pour y aboutir. Alors, comment l'araignée fait-elle pour reproduire cette phéromone alors qu'elle n'est pas chimiste? Comment lui est-il venu à l'esprit d'en induire le bout de ses fils? Ces questions nous mènent à une vérité évidente. La phéromone chimique, les mites, et les araignées furent toutes créées par Dieu. Ces exemples révèlent une fois de plus la finesse de la création de Dieu, Seigneur de l'univers entier et de tous ses êtres. L'araignée trappe utilise une autre technique pour capturer ses proies. Au lieu d'utiliser des toiles comme les autres araignées, cette espèce attaque par en dessous. Elle se creuse une cachette dans le sol et fabrique avec de la soie et de la terre de quoi en couvrir l'entrée. Elle fixe un côté de ce couvercle au sol, comme un gond. Puis elle tend fermement des fils vers l'extérieur. Elle camoufle les fils ainsi que l'entrée de sa cachette avec de la terre et des feuilles. Grâce à ce système, elle peut sentir la moindre vibration qui se produit à l'extérieur et se dirige vers sa source. Le piège est prêt maintenant. La fourmi approche sans avoir la moindre idée du piège qui l'attend. Avec assurance, elle pense marcher sur des fleurs, alors qu'il s'agit du piège de l'araignée. Comment une araignée dénuée de toute pensée et raisonnement peut-elle avoir réfléchi à ce piège et conçu un système d'alarme? Qui lui a appris à cacher son terrier en fabriquant des leurres comme des fleurs? N'est-il pas encore plus troublant de se rendre compte que chaque espèce d'araignée connaît, dès sa naissance, la technique de chasse qui est propre à son espèce? Cette jeune araignée bolasse, plus petite que le bout de votre doigt, vient de fabriquer son tout premier lasso, pas plus gros qu'un chat d'aiguille. Cette araignée d'Inopis nouvellement née vient de tisser une toile miniature. Ce bébé araignée est un génie dès sa naissance. La présence de nombreux jeunes dans un espace réduit peut conduire à quelques accrocs, mais en fin de compte, tout finit par rentrer dans l'ordre naturel. Ces bébés araignées quitteront bientôt leur mère pour leur propre nid. Cela montre indéniablement qu'il est inspiré aux araignées de tisser des toiles et de construire des pièges. Il ne fait pas non plus de doute que Dieu, Seigneur de l'univers, est le créateur de ces êtres aux traits merveilleux. C'est Dieu qui leur inspire de faire ce qu'elles font. Une fournaise de 55 degrés au moins. Des dunes sans fin. Des tempêtes de sable étouffantes. Le désert est synonyme de mort pour l'être humain non préparé. Seuls des véhicules spécialement conçus pour le désert peuvent résister à ces conditions extrêmes. Leurs qualités tiennent à leur résistance, aux températures élevées et au sable. Leur capacité à couvrir de longues distances avec peu de carburant, leur faible consommation en eau. La machine la plus à même de résister à ces conditions pénibles n'est pas un véhicule, mais un animal. Le chameau a servi les hommes du désert depuis toujours et représente plus que toute autre chose le désert. La chaleur extrême limite le nombre d'animaux vivant dans le désert. À l'exception de quelques insectes, reptiles et autres petits animaux, aucun autre animal ne peut supporter la température du désert. Le chameau est, en effet, le seul grand animal à y vivre. Dieu l'a créé spécialement pour qu'il vive dans le désert et qu'il serve l'homme. Dans ce verset, Dieu attire notre attention sur l'origine du chameau. Ne voit-il pas, les chameaux, comment ils ont été créés ? Chaque caractéristique du chameau est un miracle. Sous le soleil ardent du désert, il est vital de boire. Or, il est difficile, voire impossible, d'y trouver à boire et à manger. Aussi, pour pouvoir survivre dans le désert, faut-il pouvoir supporter la faim et la soif. Le chameau a été créé avec cette résistance. Le chameau peut en effet rester jusqu'à 8 jours sous des températures avoisinant les 50 degrés sans manger ni boire. Quand le chameau trouve un point d'eau, il accumule des réserves. Ainsi, il peut ne pas boire pendant de très longues périodes et avaler, quand il trouve un point d'eau, un tiers de son poids en eau en 10 minutes, soit 130 litres. Ses réserves se situent dans sa bosse, où 40 kg de graisse sont stockés. Sa bosse lui garantit une autonomie de plusieurs jours dans le désert. Par ailleurs, la plupart des aliments disponibles dans le désert sont secs et épineux. Pourtant, les lèvres du chameau et ses dents y sont tout à fait adaptées. Son système digestif est capable d'assimiler les ronces les plus coupantes. Son estomac, unique en son genre, est conçu de sorte à digérer pratiquement toutes les plantes du désert. Lorsque les vents du désert soufflent, ils annoncent souvent des tempêtes de sable. L'air devient alors suffocant et aveuglant. Cependant, Dieu a doté le chameau de paupières transparentes, de sorte que le chameau puisse voir, même les yeux fermés, et de longs cils épais qui empêchent la poussière d'entrer dans ses yeux. Ses narines sont également pourvues de couvercles spéciaux qu'il referme pendant les tempêtes. Le chameau ne risque pas non plus de s'enliser dans le sable, même s'il porte des charges de plusieurs centaines de kilogrammes. Car ses pattes sont parfaitement adaptées au désert. Ses larges orteils l'empêchent de s'enfoncer dans le sable et fonctionnent exactement comme des raquettes de neige. Ses longues pattes tiennent à distance du sol brûlant le corps de l'animal. Ses poils épais et drus le protègent des brûlures du soleil et du froid de la nuit. Certaines parties de son corps sont couvertes de couches épaisses de peau afin que lorsqu'il s'assoit, le sable ne les gratigne pas. Ce ne sont pas des callosités développées au fur et à mesure, mais bel et bien une protection contre les brûlures. Quelle perfection! Faisons le point des traits qui caractérisent le chameau. Le système qui lui permet de supporter la soif. La bosse qui lui sert de réserve à défaut de pouvoir manger. La forme de ses pieds qui l'empêche de s'enfoncer dans le sable. Les paupières transparentes qui lui permettent de voir les yeux fermés. Les cils qui empêchent le sable de rentrer dans ses yeux. Le nez qui se referme en cas de tempête de sable. La capacité de sa bouche, de ses lèvres et de ses dents à mâcher des épines et des plantes désertiques. Le système digestif, capable d'assimiler la nourriture la plus épineuse. Les durillons, qui font office de carapace contre les écorchures du sable. La fourrure, qui le protège à la fois de la chaleur et du froid. Aucun de ces traits ne saurait être expliqué par la théorie de l'évolution. Il révèle simplement une vérité évidente. Le chameau a été créé par Dieu pour vivre dans le désert et servir ses habitants. Dans ce film, nous avons voyagé dans les profondeurs de l'océan, dans les forêts tropicales amazoniennes et dans le désert ardent. Les animaux étudiés nous ont permis de témoigner d'un fait important. Le pouvoir de Dieu et la splendeur de sa création sont manifestes aux quatre coins du monde. Sa sagesse est omniprésente. Dieu révèle dans un verset: en vérité, votre seul Dieu est Dieu, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout.